RFI, les 3 heures du matin aux Seychelles, 13 heures à Bora Bora, on y serait bien d'ailleurs, et minuit ici à Issy-les-Moulineaux. Et c'est là que vous attend Antoine Galen pour le journal. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, Donald Trump qualifie Volodymyr Zelensky de dictateur. Le dialogue de plus en plus compliqué entre les États-Unis et l'Ukraine. On fait le point dès le début de ce journal. En Turquie, arrestation en cascade ces dernières semaines. Ce mercredi, c'est le patron des patrons, Orhan Turan, qui a été interpellé après des critiques contre la justice. Dans ce journal également, nous irons en Inde. Le suicide d'une étudiante népalaise provoque presque une crise diplomatique entre l'Inde et le Népal, vous l'entendrez. Et puis le cinéma malien en deuil, le réalisateur Souleymane Cissé s'est éteint ce mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans. Il avait reçu le prix du jury au Festival de Cannes en 1987 pour Yélène, l'un de ses chefs-d'œuvre. Vous avez les titres ? Bienvenue. La tension monte entre les États-Unis et l'Ukraine. Donald Trump qualifie Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection et lui conseille de réagir rapidement, sans quoi il n'aura plus de pays. Des attaques au lendemain de la rencontre entre les chefs de la diplomatie américaine et russe à Riyad, sans l'Ukraine. Même si l'envoyé spécial de Washington en Ukraine, Kit Kellogg, est arrivé à Kiev pour une visite de 3 jours, le dialogue semble chaque jour plus compliqué entre les États-Unis et l'Ukraine. À Kiev, on retrouve tout de suite notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, comment Kiev réagit à ces déclarations ?
Alors écoutez, les commentaires, les mensonges même de Donald Trump sur l'Ukraine et sur Volodymyr Zelensky ont été reçus avec stupeur par les Ukrainiens. Côté politique, même l'opposition fait bloc derrière le président. Il n'y a pas de place pour les dissensions et les rivalités internes, tant l'heure est grave. Et Volodymyr Zelensky, lui, continue de réagir prudemment aux sorties Trump. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que le président américain semble vivre dans un espace de désinformation. Et Volodymyr Zelensky s'est concentré plutôt sur d'autres annonces comme celle de son appel téléphonique avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, tout en enjoignant les Ukrainiens à rester unis, référence peut-être à cette sortie infondée de Donald Trump sur un supposé rejet des Ukrainiens de leur président, alors qu'au contraire, la popularité de Volodymyr Zelensky est remontée depuis la fin 2024. En attendant les nouvelles annonces de Washington clairement alignées sur la rhétorique de Moscou, Kiev continue les tractations avec ses alliés européens, ainsi que le Royaume-Uni et la Turquie qui assurent l'Ukraine de leur soutien pendant que l'envoyé spécial des États-Unis en Ukraine, Keith Kellogg, est ici en visite, une visite de 3 jours. Il devrait rencontrer Volodymyr Zelensky demain.
Merci Emmanuel Chaz, correspondante pour RFI en Ukraine. Et pendant ce temps, après un mini-sommet informel ce lundi avec 7 pays européens, une nouvelle réunion a eu lieu en visioconférence ce mercredi à Paris entre 19 chefs d'État membres de l'UE et de l'OTAN. Le président français Emmanuel Macron affirme que la position de la France et de ses partenaires sur l'Ukraine et la sécurité européenne est claire et unie. Le président français et le premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, sont attendus à la Maison-Blanche en début de semaine prochaine. C'est ce qu'indique un responsable américain. Direction la Turquie, où le patron des patrons, Orhan Turan, a été interpellé après des critiques contre la justice. Le dirigeant de la puissante confédération patronale TÜSİAD va être entendu par un tribunal d'Istanbul. Une interpellation qui fait suite à des dizaines d'arrestations ces dernières semaines au sein du monde de la politique, de la culture ou encore de la presse en Turquie. À Ankara, les précisions d'Anand Lauer.
Au cours d'une réunion le 13 février, le président de la TÜSİAD ainsi que le chef de son haut conseil consultatif avaient prononcé des discours critiques sur l'état de l'économie et de la justice turque. Étonnamment critiques, de la part de ce syndicat patronal d'ordinaire plutôt prudent, ce que certains lui reprochent parfois. Les deux hommes font désormais l'objet d'une enquête pour diffusion de fausses informations et tentative d'influencer un procès équitable. Ils avaient notamment dénoncé la récente répression visant des dirigeants de l'opposition et des journalistes, faisant le constat d'un pays démoralisé à la confiance ébranlée. Le président de la TÜSİAD, Orhan Turan, entendu le premier par un procureur, avait également fustigé la propagation de la corruption, de la fraude et du marché noir, estimant, je cite, qu'il est devenu plus facile de fonder une organisation à but criminel que de fonder une société. Ces discours, signe d'une frustration certaine au sein de la communauté d'affaires turque, n'ont pas du tout plu au pouvoir. Alors qu'Orhan Turan était entendu par la justice, le président Erdogan a qualifié ses propos de provocation, ayant largement dépassé les limites. Anand Lauer, Ankara, RFI.
En Israël, le Forum des familles d'otages a été informé de la mort de 2 enfants et de leur mère. Un 4e otage a également perdu la vie. Les dépouilles doivent être remises jeudi à Israël par le Hamas. Samedi, 6 otages doivent être libérés en échange de Palestiniens retenus par l'État hébreu. Le Hamas s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza lors de la 2e phase de la trêve avec Israël. Elle doit commencer début mars. Pendant ce temps à Paris, les manifestations prévues mercredi et jeudi soir pour la libération de Georges Abdallah interdites. La police indique des risques à l'ordre public. Le militant libanais pro-palestinien Georges Abdallah a été condamné à la réclusion à perpétuité en 1987. Et ce, pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens dans les années 1980. La cour d'appel de Paris doit statuer jeudi sur sa nouvelle demande de mise en liberté. Plusieurs manifestations sont prévues ailleurs en France, comme à Toulouse, Alençon ou Lyon ce mercredi. L'Équateur va demander à des pays alliés l'envoi de forces spéciales pour lutter contre le narcoterrorisme. Le président Daniel Noboa a décrété en janvier 2024 un conflit armé contre une 20aine d'organisations criminelles. L'armée est déployée dans les rues de 7 provinces sur 24. La lutte contre les cartels, principal argument de Daniel Noboa pour la campagne électorale, quasi à l'égalité à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Il affrontera le 13 avril la candidate de gauche, Luisa González, pour le second tour. Au Venezuela, les législatives repoussées d'un mois. Elles se dérouleront le 25 mai. La dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, avait appelé à boycotter ce scrutin après avoir dénoncé des fraudes lors de la réélection de Nicolas Maduro en juillet dernier. Elle réclame également la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. En Inde, le suicide d'une étudiante népalaise provoque une quasi-crise diplomatique. Des centaines d'étudiants népalais ont été exclus de leur université en Inde après avoir manifesté suite à sa mort. Katmandou a fait part de son indignation. Le gouvernement a promis une enquête ce mercredi et a réitéré et a réintégré les étudiants pour tenter de calmer la crise. Comme Bastin à Bangalore.
Les Népalais sont une communauté pauvre en Inde et victime de discrimination. L'escalade a commencé lorsque Prakriti Lamsal, 20 ans, s'est donné la mort dans l'état de l'Orissa. Selon sa famille, elle aurait été harcelée par un autre étudiant et l'université serait restée sourde à sa détresse. En réaction, de nombreux étudiants népalais ont manifesté pour réclamer une enquête sur sa mort. La réponse de l'université a fait exploser l'affaire. L'intégralité des étudiants népalais ont été renvoyés sans ménagement. Et ils étaient nombreux, près de 800 auraient dû regagner leur pays. De quoi provoquer l'indignation. À Katmandou, où le Premier ministre s'est élevé contre cette décision brutale, le ministère de l'Éducation a même menacé de suspendre l'envoi d'étudiants en Inde. Depuis 24 heures, le gouvernement de l'Orissa fait tout pour calmer la colère du Népal, pays voisin et ami de l'Inde. Une enquête a été ordonnée sur ce suicide. Plusieurs employés de l'université, accusés d'avoir maltraité des Népalais, ont été arrêtés. Enfin, les étudiants suspendus ont été priés de bien vouloir revenir. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
Il était l'un des pères du cinéma africain. Le réalisateur malien Souleymane Cissé s'est éteint ce mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans. Et ses films tels que La jeune fille, Le porteur ou encore Le temps ont profondément marqué le 7e art. Il avait même reçu le prix du jury au Festival de Cannes en 1987 pour l'un de ses chefs-d'œuvre, Yélène, on l'écoute.
Je suis très ému, car pour moi, je suis venu à ce festival, pas pour gagner des prix, mais pour une ouverture plus large, pour que le cinéma soit un cinéma universel. Et ce prix, je pense que ce n'est pas pour moi, mais ceux qui m'ont aidé, surtout de l'autre côté et qui n'ont pas le droit de parler. Merci.
Le réalisateur malien Souleymane Cissé. Et puis du football avec les matchs retour de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé envoie le Real Madrid en 8e de finale grâce à un triplé contre Manchester City, 3-0. Le Paris Saint-Germain se balade au Parc des Princes en s'imposant 7-0 face à Brest. Un peu plus tôt dans la soirée, le Borussia Dortmund s'est qualifié après un match nul 0-0 contre le Sporting Portugal. Ils avaient gagné 3-0 au match à l'IRFI bientôt minuit 10 à Paris, 23h10.